Bonjour aux chers auditeurs et bienvenue à la chronique de la semaine, une autre chronique pour Inukpak Outfitting. Donc aujourd'hui, c'est une chronique qui est réalisée dans le cadre du projet Petite Enfance en Santé, qui est financé par l'Agence de Santé publique du Canada et coordonné par le RESFA, en fait. Et puis, là, je pense qu'on... En fait, on est à la quatrième, mais c'est la deuxième chronique. Donc, j'explique un peu. J'étais avec Louis-Philippe Potier, comme à toutes les deux semaines maintenant. Salut. Comment ça va?
Ça va super bien.
Yes, super. Et puis, c'est ça. Donc, c'est pas une chronique qui va dans la prochaine édition du journal Nouna Voix, mais c'est une chronique qui est déjà apparue un peu avant Noël. Et puis, si vous vous rappelez bien, on parle du meilleur ami de l'habitant du Nord, le Kimik ou le chien de traîneau. Donc, je pense que c'est un sujet que tu connais assez bien pour une Inukpak.
Je connais assez bien. Ouais. Oui, on est propriétaire de deux des équipes de Iqaluit, fait que c'est un peu,
exactement.
Notre expertise, ouais.
Exactement, donc c'est ça, c'est vraiment un sujet que tu es plus à l'aise.
Là, oui, exactement.
Je vais te demander pourquoi, en fait, on choisit le Kimik, donc ce chien de traîneau-là, plutôt que n'importe quel autre chien.
Pourquoi cette race-là, plus qu'un autre race? Nous, ici, en fait, dans notre équipe, je dirais... Probablement, là, je me tromperai pas si je dis presque à 100% des équipes d'Iqaluit. On utilise tous du Canadian Inuit Dog, du chien Inuit canadien, qui est un peu la race de... Si on regarde la grande famille des chiens de traîneau, qui est un peu la race initiale ou la race de le premier chien de traîneau. C'est la même race, c'est le même chien que les Inuits ont toujours utilisé. C'est un chien qui est robuste, un chien qui est fait fort, c'est un chien qui s'est adapté avec les années aussi au climat polaire, au climat de l'Arctique. C'est un chien qui, contrairement à d'autres races de chiens, qui s'y trouve bien ici. On prend nos chiens à nous, on prend la grande famille des Canadian Eskimo Dog ou Canadian Inuit Dog. Et puis, à partir de cette race-là, on a fait des croisements pour aller chercher peut-être une forme ou une musculature ou une fourrure peut-être moins épaisse pour s'adapter aux conditions du sud. Mais nous, c'est vraiment la race initiale, la race de base.
OK. Ouais, je comprends un peu. Ouais. Justement pour faire face au froid, puis...
Pour faire face au froid, c'est pas nécessairement seulement le froid,
mais un peu... C'est une question d'endurance aussi.
Adaptation aussi... au régime de vie au nord, donc c'est un chien qui peut jeûner pendant quelques jours, puis après ça avoir un plus gros repas, puis bien s'en tirer avec ça. Si on recule de centaines d'années, la nourriture était peut-être pas nécessairement un repas à tous les jours, les chiens étaient nourris quand la nourriture était disponible. Donc, tu sais, c'est plein de petits détails comme ça qui fait en sorte que c'est un chien qui est mieux adapté, en fait.
OK. Quel est le fonctionnement de la meute?
Ben, en fait, une meute, je dirais, de façon générale, si on regarde façon générale, les meutes là, des Iqaluit, on va voir peut-être 25% femelles, des fois un tiers, peut-être. C'est rarement la moitié-moitié. La raison pourquoi on garde plus de mâles que de femelles, c'est une question... C'est une question de charge de travail. Donc, les mâles sont toujours un petit peu plus gros que les femelles. Donc, si on prend par exemple l'idée que chaque chien peut tirer une fois et demie, deux fois son poids, donc comme les mâles sont plus pesants, ben ils ont une capacité de travail qui est plus élevée. Donc, ils peuvent tirer plus de poids. Ça n'a rien à voir avec l'éthique de travail, ça n'a rien à voir avec les mâles travaillent plus fort ou travaillent mieux que les femelles, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de poids, une question de force de travail. Donc, on a à peu près un tiers femelle, un tiers 25%, un tiers femelle. Sinon, après ça, les chiens entre eux vont élire ou vont se décider un mâle alpha. Donc, on a un mâle un peu le boss de l'équipe. Sa job, c'est de faire les règlements, s'assurer que les chiens les suivent. On ne vous cachera pas que dans leur tête, c'est eux qui pensent qu'ils sont en charge des femelles aussi. On a un peu d'options, là, on peut quand même choisir. Mais c'est vraiment ça. C'est les boss de l'équipe, c'est eux qui vont un peu leader plus l'équipe au niveau du chenil, au niveau de qui fit où dans la hiérarchie. Les meutes, c'est tout le temps des groupes d'individus qui sont très, très hiérarchisés. Une fois sur le sentier, le mâle alpha est peut-être un peu moins important, puis il va donner sa place plus au lead dog. où là, c'est un chien que nous, on choisit pour ses capacités de vitesse, pour ses capacités à nous écouter, sa capacité à prendre des bonnes décisions. Puis là, le lead dog va se retrouver à être vraiment le leader de l'équipe, ou le chien qui se retrouve en avant aussi, qui va prendre des décisions basées sur les commandes vocales qu'on va donner, qui va prendre les décisions par rapport aux différents sentiers.
Okay.
Donc, sur la sentier, on a un lead dog, puis sinon, au chenil, on a un alpha qui est vraiment plus le boss de l'équipe.
Okay,
ça comprends. Peut changer d'année en année, ça change de saison en saison.
Okay, donc, lead dog, ça veut pas dire le chien qui est en avant, ça veut dire le leader, en fait.
Oui, ben, de par son besoin, là, les leaders sont toujours placés en avant de l'équipe, donc nos
exactement,
leaders sont en avant. C'est vraiment un peu comme le conducteur de l'équipe, là, ou le meneur de l'équipe. Versus le boss qui n'est pas nécessairement le plus rapide, pas nécessairement celui qui écoute le mieux non plus. Les mâles alpha souvent ont une espèce de sixième sens, le sens chasseur ou le sens s'en sortir, avec un instinct de chasseur un petit peu plus élevé. Fait que c'est souvent des chiens qui sont plus bornés aussi, donc pas nécessairement les meilleurs leaders là, quand on se retrouve sur la trail.
Ok. Je sais qu'on présente. En fait, le but de ces chroniques-là, c'est de présenter des activités familiales. Donc, je vais te demander en quoi c'est une bonne activité familiale au final.
C'est une activité familiale. C'est sûr que, bon, dans toutes les activités qu'on a présentées, c'est peut-être l'activité qui est la moins. Quelqu'un qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas d'équipement. Il y a un très, très grand step à faire avant d'avoir une équipe, l'équipement, puis de pouvoir en profiter. C'est possible pour les familles parce qu'à Iqaluit, on a des compagnies qui offrent ce genre de service-là. Nous, on en est un, Inuk Pack Outfitting, il y a Northwinds, il y a Cool Running qui offrent des programmes soit pour les jeunes ou des programmes même de sortie guidée. Fait que c'est possible, sans avoir tout le matériel, de vraiment juste faire une sortie de quelques heures ou une journée. C'est possible pour les enfants, c'est pas... on parle pas de grande vitesse, c'est pas un sport extrême ou c'est pas un sport excessivement dangereux. C'est un sport dans lequel on peut rapidement et facilement se garder au chaud aussi. Donc c'est possible de se garder actif. On peut tout le temps courir à côté du traîneau, bouger un petit peu. Donc, des fois, c'est plus facile le traîneau à chien de se garder au chaud, mettons par rapport à la motoneige.
On est un
petit peu plus statique. Ça reste une activité qu'on peut ajuster aussi en durée. Donc, c'est sûr que des fois, nous, on fait des sorties avec des familles, avec des jeunes enfants plus jeunes. Des fois, on peut placer la sortie dans l'année puis attendre un petit peu plus tard au printemps quand il fait plus chaud. Sinon, on peut jouer avec la longueur du mandat de la sortie. Donc, on peut ajuster facilement là, pour les familles.
Ok, je comprends. Puisqu'on parlait plus pour les jeunes, mais également pour beaucoup de gens, j'ai entendu dire que beaucoup de gens ici avaient peur des chiens. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intimidant pour quelqu'un qui a peur des chiens? Là?
C'est toujours intimidant. Même, on le cachera pas. Là. Nous, on a des gens qui arrivent au bureau, qui viennent pour la première fois, puis on pose toujours la question. Puis des gens qui disent « Ah non, moi je suis super à l'aise avec les chiens, pas de problème. » Puis la première fois qu'on stationne le véhicule à côté du chenil, la première fois qu'ils voient les chiens, ils font comme « Ok, là, t'as peur, là, il y a... » Non seulement il y a vos 30 chiens, mais il y a 250 autres chiens tout près. Là, toutes les équipes de chiens de traîneau, on garde les équipes très, très, très proches l'un de l'autre. Fait qu'il y a une espèce d'énergie, une espèce d'effervescence là, canine. Tous les chiens sont vocales, ils ont hâte de partir. C'est un jeu de choisis-moi, choisis-moi. Là, fait qu'ils sont contents de partir, ils veulent se faire remarquer. Fait que des fois, c'est surprenant. Sinon, on ne cachera pas qu'il y a tout un non-dit ou peut-être une mauvaise connaissance du chien de traîneau où les gens ont soit vu ou soit entendu parler de batailles de chiens. Et ça arrive, ça fait partie de la hiérarchie, ça fait partie de la vie de meute. Nous, on est capable de régler un conflit, on est capable de se parler, capable de régler le conflit. Les chiens règlent le conflit en se mordant. Fait que c'est bataille, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et ça peut être graphique, ça peut être surprenant. Les gens souvent vont associer ça avec de l'agressivité. Donc des chiens qui se battent, c'est des chiens agressifs. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment une question. Nous, on a des batailles régulièrement. On a des chiens qui se battent entre eux régulièrement. Ça arrive, ça fait partie de la game. on n'a jamais eu un chien qui a mordu quelqu'un. Okay, okay. Il y a vraiment une différence à faire entre la vie de meurtre qui demande un certain jeu de coude ou un certain... c'est même à la limite un très très bullying versus le chien et l'humain ensemble qui est complètement deux mondes. Donc c'est un peu une fausseté là, des fois qu'il faut briser. Je dirais, normalement, les gens arrivent, les gens les plus craintifs, là, rapidement, on peut les saisir, on les reconnaît rapidement, fait qu'on peut facilement les mettre en confiance. Puis nous, on a des gens qui sont déjà arrivés en disant, très très peur, je veux à la limite, presque pas les entendre, presque pas les voir, je veux faire du traîneau à chien, mais le moins possible avec les chiens. Puis on finit la trail, puis ils sont à terre, à genoux à terre, en train de flatter les chiens. Là. Fait que tu sais, ça reste... C'est une activité qui, oui, la première barrière, là, ça peut être impressionnant, mais rapidement, les gens se font apprivoiser les chiens ou les gens se font approcher. Là.
OK, OK. Ah, oh, ben c'est ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle dans ce temps-là.
Oui, oui, oui.
Donc, la fameuse question que je te pose chaque semaine, quoi amener avant de partir?
Quoi amener avant de partir? C'est la même, un peu la même liste. Donc, quoi amener? Avant de partir, même, laisser une note. On laisse toujours une note, une idée de où on va, dans quelle région ou quelle... Quel côté de la ville on pense aller. On laisse une petite note à la maison si jamais il arrive quoi que ce soit. Les gens au moins savent où nous chercher. Sinon, le même petit sac à dos qu'on amène dans toutes nos sorties. Donc, vêtements de rechange, des bas, des mitaines d'extra. Nous, on le prête à nos invités, là, mais un manteau d'extra. Quelque chose qu'on peut rajouter, ça n'a pas besoin d'être, un excellent manteau, mais juste une couche de plus qu'on
okay, peut ouais, rajouter je comprends.
Par-dessus. Sinon, après ça, toujours trousse de premiers soins, communication. Donc, faut connaître un peu le réseau cellulaire, jusqu'où je peux compter sur mon téléphone versus qu'est-ce que j'ai de besoin, passer la zone cellulaire. Donc, que ça soit une balise, spot ou d'autres moyens de communication. Sinon, il y a le chien de traîneau, il y a tout le temps le risque que les chiens reviennent sans nous. Il y a toujours le risque. L'idée de tomber du traîneau à chien, que le musher a une espèce de petit sifflement spécial qui fait en sorte que les chiens tournent de bord puis reviennent nous chercher. Ça a été écrit par quelqu'un qui travaillait pour Walt Disney. c'est pas le cas. Fait que tout cet équipement-là, pas tout l'équipement, mais une partie de l'équipement. Nous, on se force à l'avoir sur nous. C'est pas, tu sais, une motoneige, on peut laisser le sac à dos dans le traîneau. Il n'y a pas de danger que ça se sauve. Le danger en traîneau à chien, c'est de laisser l'équipement sur le traîneau puis que le traîneau se sauve.
Okay, avec les chiens. Ouais.
Là, on arrête de prendre une collation, un petit moment d'inattention, puis whoop, les chiens voient un corbeau, les chiens voient une autre équipe, les chiens voient une motoneige, puis ils décident de partir. Il y a toujours un petit risque. Fait que ces fameux, ces outils de communication-là, ou c'est la paire de mitaines d'extra, le petit chandail d'extra, c'est tout le temps important de l'avoir à portée de main, puis même là, les outils les plus importants, même sur nous, là, plus que juste dans un sac.
OK. Et puis la dernière question que je vais te poser, en fait, c'est plus personnel, mais quand même, je me la pose, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui se la posent aussi. Pourquoi tu as décidé un jour... Tu t'es levé un matin, tu te dis, moi, je me pars une équipe de traîneau à chien. Vraiment.
C'est arrivé quand ce matin-là? Il faut savoir que Martine et moi, notre background, notre vie pré-Arctique, notre vie pré-Nunavut, il y a eu des chiens là, à un certain moment là-dedans. Les deux, on est guides en tourisme d'aventure. Martine avait fait un court stage en traîneau à chien. J'avais fait un petit peu de traîneau à chien aussi. Fait qu'on avait déjà ça dans le mis ça de côté un petit peu. C'est sûr que là, on venait s'établir au nord. C'était comme un rêve de dire, si on va s'établir au nord, faut faire du traîneau à chien. Faut en avoir fait. Fait qu'on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis rapidement, on savait pas trop comment ça allait arriver. Puis rapidement, quand on est arrivé au Nunavut, dans les premiers amis qu'on a eus, c'était des gens avec des chiens de traîneau. Fait qu'on a rapidement commencé à donner un coup de main. C'était intéressant pour nous, c'était intéressant pour eux. Là. C'était un gagnant-gagnant. Fait qu'eux avaient un coup de main avec les chiens. Nous, on avait accès à une équipe de chiens. Puis, dans ce même hiver-là, Il y a quelques équipes qui nous ont donné soit des chiens qui commençaient à être un petit peu plus âgés, des chiots. Fait qu'en dedans, en dedans d'un an, on avait notre première équipe.
Okay.
En dedans d'un an à Iqaluit, on avait nos premiers chiens. Fait que depuis ce temps-là, on a constamment remplacé les plus vieux, puis même grossi l'équipe là, pour maintenant avoir une trentaine de chiens.
OK. Ouais. Ben écoute, on se donne rendez-vous, je pense que c'est la semaine prochaine du coup, vu que ce serait le cinquième.
Ça devrait ressembler à ça,
ouais, à peu près,
autour
là.
De la semaine prochaine.
Autour, OK. Pour la prochaine chronique, évidemment, ouais. Pour Inukpak Outfitting, Outfitting, OK, l'un des deux. Outfitting. Et puis, ben écoute, je te remercie pour ton temps, Louis-Philippe.
Ben, ça fait plaisir.
Puis, c'est ça, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Je vais l'aller au complet. Une chronique pour le cadre du projet Petite Enfance en santé, financé par le RESAFAN et l'Agence de santé publique du Canada. Et vous, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes du CFRT 107.3, c'est Fred et j'aime ça.